CFM.
À qui le tour, la suite. Salut tout le monde, si vous nous rejoignez, salut Rémi.
Eh ben, salut tout le monde, salut Aurélien, et bonjour à notre invité, donc en studio avec nous, Philippe Guilaine. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur de José Cabrero Arnal, c'est une biographie du créateur de Pif le Chien. C'est un beau livre aux éditions Loubatière. Quand je dis un beau livre, c'est un grand format, en couleur, avec beaucoup d'illustrations. Des petits exemples de ce qu'étaient les petites trois cases qu'on avait avant dans le journal Vaillant, par exemple, ou au tout début dans l'Humanité, comment est né les premiers dessins de José Cabrero Arnal autour notamment de Pif le Chien. Hein. Pif le Chien, Placide et Museau, Roudoudou.
Rikiki et Roudoudou,
ouais. Voilà, ça devrait parler quand même à quelques personnes. Avant qu'on commence vraiment à parler de José Cabrero Arnal, d'où vous est venue cette passion pour ce personnage?
Eh bien, tout simplement, j'étais jeune, un lecteur du magazine qui était un hebdomadaire. Qui était d'abord Vaillant et qui est devenu ensuite fin des années 60 Pif Gadget,
ouais. Et c'est vrai que au début, José Cabrero Arnal est arrivé en France, il a commencé à dessiner dans le journal Vaillant qui est devenu ensuite, avec ce petit sous-titre, Vaillant, le journal de Pif le Chien, quoi. Mm-hmm. Tellement le personnage, puisqu'il y avait d'autres BD, d'autres dessinateurs à l'intérieur, mais tellement le personnage de Pif le Chien prenait de l'importance. Voilà, on va évoquer ça dans un instant avec donc Philippe Guilaine.
Voilà, CFM, les H-Puppies, retrouvez toute leur ambiance, leur énergie rock sur la scène du Beaulégason la semaine prochaine, jeudi 20 octobre.
Alors Philippe Guilen, votre projet, votre idée d'écrire ce livre sur le créateur de Pif Gadget, José Cabrero Arnal, votre idée est survenue aux alentours de 2009, lors finalement du 100e anniversaire de sa naissance, c'est ça ?
C'est exact, oui, un 100e anniversaire où justement l'ambiance était à l'absence, hein, puisque quasiment rien n'a été fait sur Arnal, qui aurait eu 100 ans en 2009, donc en septembre.
Alors quasiment rien ne fait autour de ce personnage, pourtant ô combien connu et qui a vraiment beaucoup compté. Il se trouve aussi qu'il est passé par le Tarn-et-Garonne, puisque au moment de la retirada, comme c'était un réfugié espagnol, il est passé par chez nous, par Caussade. Alors, une question, est-ce qu'il est passé par le camp de Sept-Fonds?
Alors, non, il n'est pas passé par le camp de Sept-Fonds. Il en a connu quatre camps, hein, sur le littoral méditerranéen. Et il n'est venu sur Caussade qu'après sa sortie d'un autre camp tristement célèbre, celui de Mauthausen en Autriche. Ouais. Et c'est donc en 45, fin 45, qu'il était sur Caussade.
Alors on va reprendre du début, si vous voulez bien. Naissance en 1909 dans la campagne aragonaise, c'est ça ?
C'est exact.
Hein ? Fils de paysan.
Fils de paysan sans terre, comme beaucoup de paysans en Espagne, sous la monarchie espagnole, donc de l'époque.
Oui. Et puis, très vite, il s'ennuie à l'école. Ce qui lui plaît, lui, c'est le dessin. Hein. Ses marges de cahier d'écolier sont remplies de caricatures et de dessins.
Alors, l'école, il l'a connue initialement, et donc sous la monarchie espagnole, par l'intermédiaire des sœurs, hein, des bonnes sœurs qui, à Castelcibas, à côté de Huesca, à 8 kilomètres, dans un tout petit hameau, étaient les seules personnes qui avaient quelques enfants de cœur à former et qui enseignaient donc le catéchisme, en même temps qu'elles apprenaient à quelques fils de pauvres paysans, des rudiments d'écriture.
Oui. Ouais. Et puis c'est là peut-être qu'il a pris un peu son anticléricanisme, parce que il prenait plus de coups de pied dans les fesses que de catéchisme,
oui.
Que de leçons de catéchisme.
Oui, oui, il a connu effectivement l'hypocrisie. D'ailleurs, il a souvent parlé de l'hypocrisie. Hein. Et dans un village très rural aussi, le candidaton et tout ce qui, à cette époque-là, en Espagne, était le poids de l'Église. Bien évidemment.
Alors très vite, en fait, lui veut faire du dessin. Évidemment, ça plaît pas dans sa famille, parce que c'est pas avec ça qu'on va manger. C'est pas en faisant des dessins qu'on va faire bouillir la marmite. Hein. Ça plaît pas à son père.
Voilà, c'est exact. Son père est dans la tradition rurale, hein, et effectivement, il souhaitait pour son fils, pour ses fils, un métier et quelque chose qui puisse donc être valorisé. Et rapporter de l'argent, voilà.
Alors comment il va se retrouver à Barcelone finalement ?
Alors comme beaucoup, hein, puisque c'est donc dans les années 20, hein, comme beaucoup de fils ou de familles pauvres, l'issue c'était trouver du travail ailleurs que sur les terres qui n'apportaient aucun revenu. Et donc la ville qui est à 200 kilomètres, c'est Barcelone, c'est la ville attractive, la ville moderne et la ville de l'emploi à l'époque.
Et la ville qui va d'ailleurs devenir une mégapole pour l'époque, puisque la population va doubler en très très peu de temps.
En très peu de temps, la ville va effectivement avoir 1 million d'habitants. Il faut dire aussi que de grands travaux, on parlait de modernité, vont être faits à l'occasion des différentes expositions universelles qui auront lieu sur Barcelone. Donc une ville de l'emploi, un port, et avec une certaine le cosmopolitisme, une certaine aura internationale aussi déjà à l'époque.
Et très rapidement, lui, il va finalement toucher un vrai salaire pour ses dessins, très très rapidement.
Alors effectivement, initialement son père le place sous la contrainte, hein, dans un apprentissage chez quelques menuisiers ou quelques artisans réparateurs de premières machines à calculer, et il n'y reste pas, il ne peut pas s'empêcher de dessiner. Et il tente et parvient à prouver à ses parents, à son père en particulier, qu'on peut vivre du dessin. Et effectivement, à la fin des années 20, en 1929, il entre dans une maison d'édition qui lui permet de publier des pages. Oui.
Et du coup, de vivre, et de bien vivre.
Et de vivre, puisqu'il ramène à la maison, chez son père, plus d'argent que son père n'en a jamais vu. Hein. Oui, effectivement. Ouais.
Alors on est en train de parler de José Cabrero Arnal, le créateur de Pif le Chien. Il n'y a pas Pif le Chien au début. Hein. C'est au début, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de la caricature.
Alors il y a beaucoup d'activités. Hein. Alors c'est de la caricature et de la caricature politique, ce qui est méconnu en France, hein, puisque pour le français de base, Arnal c'est le dessinateur pour enfants. Hein. Mais il fait de la caricature politique. Il fait aussi de la publicité et certaines marques de textile, puisque Barcelone est une ville du textile, vont employer ce talentueux jeune dessinateur. Et puis, il va participer aussi à l'essor de la bande dessinée pour enfants, en particulier TBO, un journal qui va donner son nom, le nom générique à la bande dessinée espagnole, avant que celle-ci ne soit baptisée Comics, et Pocholo, qui est aussi un journal destiné aux enfants, un illustré, disait-on à l'époque en France.
Illustré, voilà. Et ben voilà, avec ça, il vit même plutôt bien. Il fait partie de la jeunesse des dandys, hein, de l'époque de Barcelone, quoi. Il sort beaucoup. Il aime faire la fête, hein. C'est José Cabrero Arnal.
Il aime faire la fête. Et puis, il faut dire qu'il est au sein d'un groupe de jeunes dessinateurs, tout comme lui, qui sont des fêtards, il le dit, il le revendique, et il fréquente quelques cabarets du barrio chino à Barcelone.
Okay. On a l'impression, quand justement on lit ce passage sur l'histoire de José Cabrero Arnal dans votre livre, Philippe Guilaine, que c'est un peu les années folles à Barcelone, là. La vie est belle et facile.
Alors, il faut dire que le début des années 30, on sentait poindre l'émergence d'une nouvelle société qui sera portée en 31 par la République et l'avènement de la République. Et Barcelone, plus que Madrid d'ailleurs, est la ville de ce renouveau. Et donc culturellement, bon, c'est la ville de Gaudi.
Il y avait des
aussi.
Cinémas partout.
Alors hein, voilà, ouais.
Il y avait, ouais. Je sais pas, il y a
80 cinémas sur Barcelone. Et on pouvait dans ces cinémas-là voir des films étrangers. Ça allait des Laurel et Hardy, des Chaplin, jusqu'à des films et d'autres, bien sûr, films américains, mais jusqu'à des films soviétiques qui passaient régulièrement dans ces cinémas-là. Oui.
Alors voilà, tout va très très bien se passer jusque-là pour José Cabrero Arnal, jusque-là, puisque évidemment il va y avoir la guerre, puisque alors avec un coup d'État, hein, puisque la gauche est passée aux élections, mais la droite et la monarchie refusent ces élections, et puis c'est là que la guerre civile va commencer. Un petit peu de pub, et puis on va voir comment José Cabrero Arnal se sort de tout ça.
CFM à Caussade et en Midi-Quercy, 100.1, 100.1.
Attention, coup d'envoi sur Internet, double clic et c'est une course effrénée sur le clavier. Grand saut sur une sélection de 8000 produits Auchan désormais accessibles en ligne depuis mon ordi, au même prix et mêmes avantages que mon hypermarché. Merci AuchanDrive.fr. Je commande 24h sur 24, je paye en ligne ou sur place, et voilà, mes courses dans mon coffre en moins de 5 minutes. Oh là 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 là, merci AuchanDrive.fr.
AuchanDrive ouvre à Montauban. Inscrivez-vous dès maintenant sur AuchanDrive.fr. Auchan Drive Montauban, cliquez, c'est chargé.
Service gratuit, aucun frais d'annulation en cas de non-retrait de la commande.
À Toulouse, Roty et Fils, constructeurs français, vous donne rendez-vous au CIAN, parc des expositions du 11 au 13 octobre. Le CIAN, un événement incontournable en Midi-Pyrénées, destiné à tous les artisans et industriels. Roty et Fils, constructeurs français, créateurs de machines spéciales et machines-outils, vous accueillera au stand H01, I02. Roty et Fils, le constructeur français indispensable aux entreprises qui souhaitent innover, développer et appréhender les nouveaux marchés. Info roti-tiro.com. Roti-tiro.com.
IFECO, l'Institut de formation à l'éco-construction, place Marcel Lenoir à Montauban. professionnel du bâtiment, la construction durable et économe en énergie vous intéresse? Ifeco vous accompagne pour améliorer ou renforcer vos compétences dans les domaines de l'éco-construction. Sécurité, conception, construction, réhabilitation, formation FIBAT, conduite de projet. Nos formations allient à la fois théorie et stage pratique dans nos ateliers. Ifeco, place Marcel Lenoir, quartier Villebourbon à Montauban. Info sur ifeco.fr. Prestations sur mesure par organisme agréé. Avant, c'était un sujet de plaisanterie entre nous, pour savoir lequel avait reçu son invitation. Et puis, Georges nous a quittés. Alors, le test de dépistage du cancer colorectal ne nous a plus semblé si ridicule. S'il l'avait fait, Georges serait encore parmi nous. Alors maintenant, tous les deux ans, je participe au dépistage organisé du cancer colorectal. C'est facile, gratuit, et ça me rassure. Ça nous rassure tous.
Mieux vaut prévenir que guérir. Alors n'attendez pas. Dépistez tôt. Ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10. Parlez-en à votre médecin ou à votre centre de dépistage du cancer en Tarn-et-Garonne au 05 63 91 77 80.
CFM, CFM sur le Grand Rodez. 107.9. 107.9. CFM.
Voilà, on est toujours en compagnie de Philippe Guilhem qui a écrit José Cabrero Arnal. C'est un très beau livre consacré au créateur de Pif le Chien. Et on s'était arrêté à cette guerre civile qui éclate. Alors je dois dire, donc parenthèse, si vous voulez bien, Philippe Guilhem, que... La vie de José Cabrero Arnal, pour vous, est prétexte à nous raconter aussi cette histoire de la guerre civile espagnole. C'est-à-dire qu'on y plonge dedans au travers en fait de la vie de José Cabrero Arnal.
Oui, Cabrero Arnal est emblématique de l'exil républicain espagnol et de son histoire comme de sa géographie, puisque finalement son histoire personnelle met la pagaille dans la géographie et on retrouve dans Arnal le rural qui vient en ville à Barcelone, ensuite qui connaît donc à Barcelone le coup d'état des généraux rebelles et qui par la suite la retirada, la France et puis oui. Plus tard donc,
est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il se bat?
Alors, il faut signaler qu'il participe initialement, avant même que n'éclate le coup d'État franquiste, initialement, il participe à des revues et en particulier à des journaux de caricature politique qui sont nettement, franchement classés républicaines de gauche. Quoi.
Il prend les armes même.
Et quand éclate donc en juillet 1936 le coup d'État, il n'hésite pas à poser son crayon pour effectivement prendre les armes et on peut dire que les armes, le peu d'armes que les républicains avaient. Ouais. Voilà. Oui, effectivement, il est sur le front.
Il est sur le front et il va être blessé.
Il est gravement blessé, oui, à une jambe. Oui.
Il manque de perdre sa jambe par la gangrène.
Oui.
Après, il y a la retirada à un moment. Vous racontez comment finalement les frontières se ferment en France, comment il y a cet esprit de Vichy avant Vichy qui fait qu'on va parquer tous ces Espagnols et Cabrero Arnal avec dans des camps de concentration qui s'appellent officiellement camps de concentration. Donc lui, il vient pas à cette fond, il est de passage sur à la Méditerranée.
Alors il fait partie des 500 000 Espagnols républicains qui arrivent en France et qui sont donc pour certains, et lui en particulier, parqué sur les camps de concentration d'Argelès d'abord, ensuite du Barcarès, ensuite de Saint-Cyprien et puis Agde.
Voilà, et puis après, il va, parce qu'il ne veut pas retourner en Espagne, il va devoir s'engager dans la Légion étrangère.
Pas tout à fait la Légion étrangère, mais effectivement, il ne peut pas, lui, comme tant d'autres Espagnols, rentrer en Espagne franquiste, pour le coup. Et donc, quand l'armée allemande menace la France, et à ce moment-là, donc, il fait, comme bien d'autres Espagnols, il s'engage dans ce que l'on appelait les compagnies de travailleurs étrangers, qui étaient donc des compagnies de travailleurs, mais militarisées et sous uniforme français. Et il part donc pour la ligne Maginot.
Voilà, et puis il se fera arrêter, il sera déporté au camp de
Mauthausen.
De Mauthausen, voilà. Alors là, au camp de Mauthausen, c'est les camps de concentration. Finalement, c'est sa qualité d'Espagnol qui va lui sauver la vie, en quelque sorte.
Alors, hein, c'est à la fois la solidarité des Espagnols, puisqu'elle est effective, eux qui depuis 36 sont en guerre, hein, on peut dire qu'ils ont une expérience de cette chose qu'est la guerre dans la durée, et puis ses talents de dessinateur, puisque on le remarque, les nazis le remarquent, et il doit, et il écrira et il le dira maintes fois, sa survie dans le camp à ses talents de dessinateur, et en particulier de caricaturiste.
Oui, et puis aussi tout simplement parce qu'un jour, alors que il est le 7 ou 8e à devoir être passé à tabac, il voit devant lui chacun des prisonniers rentrer dans une pièce, il entend les hurlements de ces gens, et puis quand ils ressortent, les gens sont en sang, ils sont battus à mort en fait par 5 molosses de l'autre côté. Quand arrive son tour à lui, quand il rentre là-dedans, bah, il est sauvé parce que il a un marquage comme quoi il est espagnol. Alors, c'est bizarre, ça. c'est beaucoup de chance pour lui à ce moment-là, quand même.
Alors, il faut dire, mais en parallèle et dans les années, mais sur un autre continent, Gandhi le disait, ça aussi, hein, de ce côté de la brute qui a un certain respect pour qui ose lui résister. Et il se trouve que les Espagnols ont, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et dans les camps en particulier, s'imposer bizarrement, paradoxalement, aux nazis. En tout cas, les nazis avaient un respect pour les gens qui étaient donc espagnols, ce qui ne les empêche pas, bien sûr, de mourir en très grande quantité, hein, les espagnols.
Mais en tout cas, ce jour-là, voilà, il y a un des nazis qui dit non, les Espagnols ne sont pas des voleurs, et donc on le laisse ressortir. et son collègue espagnol, enfin tous ceux qui étaient espagnols, n'étaient pas passés à tabac. Ouais. Heureusement pour lui, ça, voilà. Donc là, il échappe ce coup-là à une bonne raclée, mais enfin, ça n'empêchera pas d'aller au travail. Vous forcer, etc., etc. Quand est-ce que va naître Pif le chien?
Alors, quand il rentre de Mauthausen, le camp est libéré par les Alliés le 5 mai 1945. Il arrive à Paris le 30 mai, hôtel Lutetia, et là, il pèse moins de 40 kilos, il a 36 ans à ce moment-là, et on estime que le midi et l'air du midi pour cet Espagnol va lui donner un coup de fouet. Il arrive à Caussade à ce moment-là.
En cure à Saint-Antonin.
Et Caussade, Saint-Antonin, c'est son ami Amat Pinyelia, un très grand écrivain catalan, hein, le Primo Levi catalan, célèbre à Barcelone et en Catalogne, qui à ce moment-là, ils sont tous deux sur le Tarn-et-Garonne, l'un à Caussade, l'autre à Saint-Antonin, et il reprend ses activités de dessinateur qu'il n'a jamais finalement, même dans les camps, y compris à Mauthausen, arrêté. Et Pif naît comme le fils d'un personnage, d'un petit chien qu'il avait déjà inventé en Espagne, Top el Perro, le chien Top. Et Pif naît dans les années 45-46, enfin fin 45, et apparaît dans l'Humanité sous forme de strip, de 4-15, en 1948.
Et il va remplacer le chat, Félix le chat, qui était trop connoté américain finalement.
Alors c'est 47, c'est la guerre froide qui débute, et effectivement, à tort d'ailleurs, puisque c'est un Australien, Pat Sullivan, qui est l'auteur de Félix le chat, mais on a considéré que dans l'Humanité, la présence d'un chat américain ou américanisé était un petit peu paradoxale.
Alors, c'est pour ça qu'on va dire en fait que Pif et Hercule sont des personnages communistes, et que par extension, Pif Gadget est un journal communiste, parce que finalement il a été édité dans l'Humanité. Mais en fait, il s'en défend un petit peu. Cabrero Arnal, lui, c'est pas. Il dit c'est parce que c'est eux qui m'ont édité en premier, mais ça aurait presque pu être le Figaro. J'ai dit presque.
Oui, presque. Oui. Non, c'est vrai que Arnal les personnages, en tout cas Pif et ces personnages français, ne vont pas revendiquer quelque appartenance politique que ce soit. mais on retrouve l'idée de solidarité, d'équité, un certain humanisme qui était porté par Vaillant, un journal de la résistance, issu de la résistance. Certes, s'adressant aux enfants et aux adolescents, mais un journal composé, réalisé par des résistants communistes. Hein, oui.
Donc son passage en Tarn-et-Garonne, c'est pour se refaire une santé. Il va quand même rencontrer sa femme par ici.
Ah justement, c'est c'est très difficile. Bon, il y a plusieurs versions qui courent. L'une disant qu'il rencontre sa femme, sa future femme à Toulouse, et par ailleurs, les courriers qu'il adresse à sa famille restée à Barcelone racontent une autre version, qui est la version de la rencontre à Paris, puisque en janvier 46, il a regagné Paris afin de recommencer ses activités de dessinateur.
C'est Pif le chien qui va le faire vivre.
Alors, il a de multiples personnages. Hein. Initialement, Pif était le chien de la presse pour adultes, donc de l'humanité. Placide et Museau, qu'il menait en parallèle et même un petit peu avant, sont les personnages qui le font vivre initialement. Voilà. Il a fait d'autres personnages. Il a inventé Bec d'Or, par exemple, un petit canard. Mais c'est surtout Placide et Museau. Et Pif entrera à Vaillant en décembre 52. Voilà. Mais depuis 48, il est publié quotidiennement dans l'Humanité, et il est encore d'ailleurs à ce jour publié dans l'Humanité sous forme de strip encore.
Alors, vous avez démarré l'écriture de ce livre, Philippe Guilaine, en 2009 à peu près. J'imagine que c'est beaucoup de travail de recherche, beaucoup d'archivage, beaucoup de fouilles là.
Il y a eu d'énormes, avant que la réalisation, enfin ce projet devienne papier et objet, il a fallu effectivement une collecte d'informations et puis effectivement retrouver les anciens numéros dont j'étais le jeune propriétaire. Et passer aux choses sérieuses, oui, à partir de 2009, à partir justement de cette absence d'hommage à Arnal.
Eh bien, en tout cas, bravo, parce que c'est un très beau livre que vous signez là, Philippe Guilaine. Il s'appelle José Cabrero Arnal, aux éditions Loubatière. De la République espagnole aux pages de Vaillant, la vie du créateur de Pif le chien. C'est richement illustré, c'est un très beau livre qui se lit très facilement et où on apprend plein de choses à la fois sur le créateur de Pif le chien, mais aussi sur finalement cette guerre d'Espagne qu'on croit connaître parfois et puis que là on redécouvre par vos talents aussi de professeur d'histoire sans doute. Merci d'être venu nous le présenter ici. Vous serez à la librairie de Loche jeudi soir, jeudi 13 à 17h30 pour une rencontre avec le public et bien sûr une signature. Merci à vous.
Merci à vous. Au revoir.
On se retrouve après les informations. Vous écoutez CFM, il est 18h30.
Info. CFM, les infos.
Bonsoir.